beaucoup aux jeunes pour ce chant. Et merci aussi pour la présidence qui nous a recentré sur l'œuvre de Christ. Et ce matin, j'aimerais commencer par la prière parce que ce message, il est un peu chaud en fait. Et la parole de Dieu, elle est un peu hard ce matin. Donc je vais prier. Père éternel, merci parce que ta parole est la vérité, ta parole est digne de confiance, ta parole est là pour nous parler, pour nous redresser, pour nous appeler à changer, mais aussi pour nous rappeler l'essentiel. Et Père, je te prie que ce matin, elle puisse faire son œuvre en nous. Et Père, vraiment, nous désirons que ton esprit nous parle à travers elle. Amen. Donc, la fois dernière, où j'ai prêché, j'ai commencé à faire une petite excursion dans un livre qui est l'un des moins étudiés du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quel livre il s'agit. Jude. Vous savez ce que Jude recherchait la fois dernière ? Jude recherchait des gladiateurs. Des gladiateurs. Mais au fait, des gladiateurs de quoi ? Est-ce que vous vous rappelez de quel gladiateur Jude faisait la recherche la fois dernière ? Je sais que le message n'était pas de la semaine dernière, donc j'accepterai que vous ayez oublié. Des gladiateurs de la foi, merci Nati. Des gladiateurs de la foi, cette foi qui a été transmise, nous dit Jude, une fois pour toutes. Mais pourquoi des gladiateurs et des combattants pour la foi ? Car des personnes, nous dit Jude, ont infiltré l'Église. Verset 4. Car il s'est glissé, Jude 1, verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jude recherche des combattants, des gladiateurs de la foi. C'est ce que nous avons vu la fois dernière. Jude nous énonce que des personnes se sont infiltrées et la menace est grande, très grande. Mais de quelles personnes est-il question ? Et en quoi le risque est-il grand pour la foi des croyants ? Nous allons faire appel ce matin à un profiler de très bonne qualité. Et ce profiler, vous savez qui c'est ? C'est Jude. En fait, vous savez ce que c'est un profiler ? Un profiler, c'est une personne chargée de réaliser une ébauche du type de portrait psychologique d'une personne recherchée dans des affaires criminelles. En fait, Jude va faire un portrait qui ne se limitera pas seulement à la psychologie, mais touchera également les actes, les pensées et les discours de ces personnes qui ont infiltré l'Église. Jude va donc nous profiler ces hommes qui ont infiltré l'Église et nous montrer le jugement qui va les toucher. Si cette lettre est encore là aujourd'hui dans la Bible, c'est qu'elle ne concerne pas seulement des personnes du premier siècle, mais elle nous concerne également à nous, à notre Église de Toulouse, Rubonin. Je vous invite à suivre Jude, notre profiler de choc, dans son portrait de ces hommes qui transforment la grâce de Dieu en débauche et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi Jude, versets 4 à 19, même si notre étude se focalisera sur les versets 5 à 16. Jude 4 à 19. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome et Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées par le feu, à un feu éternel. Elles aussi, elles servent aussi ainsi d'exemple. Et bien malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te punisse !» Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux! Ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que le vent emporte, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont donc deux fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, qui dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas, de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Il vous disait, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré de leurs désirs que leur inspire leur révolte contre lui. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. On voit que c'est chaud. Pour commencer son profil, Jude a une technique des plus intéressantes. Au lieu de commencer par nous faire une liste des défauts, il va s'appuyer sur une chanson de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu nous racontes, Samuel, encore ? Oui, Johnny a écrit une chanson qui s'appelle « Souvenir, souvenir ». Eh bien, c'est exactement ce que va faire Jude. Il va susciter chez ses auditeurs le souvenir. Le souvenir non pour seulement faire remonter des connaissances enfouies, mais aussi et surtout pour inviter à les considérer à nouveau pour en tirer profit aujourd'hui. Pour Jude, ses infiltrés sont dans l'Église de Jésus-Christ du 1er siècle. Et ça nous rappelle. Et Jude veut nous rappeler, à travers ces exemples de l'Ancien Testament, comment pourraient être décrits ces infiltrés. Je vous invite au verset 5. « Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. » Jude nous rappelle un fait qui est très présent dans la pensée des Juifs. Et c'est le souvenir retranscrit dans Nombre 13 et 14. Je vous propose un petit flashback. Le peuple d'Israël vient d'être libéré du pays d'Égypte de manière miraculeuse. Il a traversé la mer Rouge à pied. Il vient de voir la noyade des Égyptiens qui étaient à leur suite et qui voulaient les exterminer. Il a été nourri par Dieu de manière, une nouvelle fois, miraculeuse par la manne qui venait du ciel, puis l'écaille. Enfin, il arrive devant le pays que leur avait promis l'Éternel. L'Éternel leur demande d'envoyer des représentants de chaque tribu pour explorer le pays promis. Et de retour, le compte rendu est sans appel. Le pays est magnifique. Il est un pays où coule le lait et le miel, signe d'abondance et de richesse. Mais il y a un petit hic de taille dans ce tableau. Le peuple qui est présent est grand et fort. Cette situation n'est pas sans faire réagir le peuple. Caleb et Josué, deux des espions, en appellent à monter pour combattre ce peuple pour une raison simple, que Dieu est avec eux et va leur donner la victoire. Toutefois, les autres participants à l'exploration sont sans appel. Le pays va les dévorer car ils sont faibles par rapport à eux. D'un seul homme, le peuple est alors prêt à tuer Moïse et Aaron jusqu'au moment où l'Éternel apparaît dans la tente de la rencontre. La parole de l'Éternel est sans appel. Jusqu'à quand le peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je vais le détruire, dit l'Éternel. Vous rappelez tous ce passage, Moïse intercède pour que l'Éternel pardonne, au contraire. L'Éternel ne le détruira pas, mais sa sentence va tomber sur cette génération. Et cette génération qui est sortie d'Égypte ne verra pas le pays promis. L'enseignement est redoutable. Presque tout un peuple de sauvés meurt dans le désert. La mise en garde indirecte atteint les incroyants qui égarent les fidèles et ceux qui seraient enclins à les suivre. Le manque de la foi, le manque de foi associé à la rébellion contre Dieu est une des premières caractéristiques de ces infiltrés. En face d'une situation qui semble être inextricable, j'aimerais nous faire réfléchir sur notre attitude. Comme ce peuple, est-ce que parfois nous remettons en cause la fidélité de Dieu et rebellons-nous à son plan pour nos vies? Cette attitude est bien différente de celle de Job qui ne comprend pas la situation par laquelle il passe et qui recherche une explication à ses souffrances. Ne prenons pas comme modèle ces personnes incrédules et rebelles. Mais ce n'est pas tout. Jude continue et nous rappelle d'autres souvenirs au verset 6 et 7 qui semblent en plus être liés entre eux. Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome et Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi servent ainsi d'exemple. La référence du verset 6 n'accorde pas tous les théologiens, même si nombreux pensent qu'il est fait référence à Genèse 6, les versets 1 et 2, à cause de la liaison avec l'histoire de Sodome et Gomorre. Je vous lis ces deux versets. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur fut née, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. » Les fils de Dieu sont assimilés par la tradition juive aux anges. Jude voit des êtres célestes, les anges ayant succombé à leur convoitise. Leurs actes, à savoir le fait d'avoir abandonné leur demeure, le ciel, et leur rang, celui d'être céleste, est caractéristique une nouvelle fois d'une certaine rébellion. Cette débauche est d'autant plus condamnable et particulièrement odieuse qu'il s'agit d'une union avec une autre chair. Ces relations charnelles entre des êtres célestes et des mortels rendent le péché totalement scandaleux. Le châtiment est à la hauteur du crime. Le temps verbe du grec est au parfait et souligne l'actualité de la sanction et la fermeté de celle-ci. Ce châtiment comporte deux phases. Dans le temps présent, un enchaînement dans les ténèbres, puis le jugement attendu qui va confirmer et proclamer le verdict. Le fait que des êtres célestes comme les anges n'échappent pas au jugement sur le mépris de leur propre statut et sur leur débauche devient un appel solennel, un avertissement pour ceux qui se croiraient pouvoir se reposer sur leur titre de chrétien, éventuellement sur une position de responsable d'église, pour se livrer à leur passion. Le titre de chrétien ou de responsable ou de participant à une église comme la nôtre n'est aucunement la garantie de quoi que ce soit. D'ailleurs, pour Jude, l'église de Jésus-Christ fait l'objet d'infiltrations par des gens qui ont un comportement qui ne démontre en rien leur attachement à Dieu. Ne nous reposons pas sur aucun titre dans l'église de Jésus-Christ pour justifier aucune de nos actions et pour une jouissance momentanée. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à un film ? La cité des anges. Mais ce n'est pas tout. Jude continue à nous profiler le type de ces personnes au verset 7, à travers une histoire bien connue de l'Ancien Testament. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature sont données un exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Une débauche sexuelle sans limite. Le rapprochement entre le péché des anges et celui des villes maudites est traditionnel et la faute est comparable. Ce châtiment reste donc dans la conscience juive, puis dans la conscience chrétienne, comme l'exemple type de l'intervention du Dieu juge pour punir des péchés flagrants. À ce titre, il est sans cesse rappelé à notre souvenir, même si nous préférons souvent le sauter quand nous passons dessus. L'aspect terrible de ce châtiment est qu'il est encore constatable. Les vestiges des ruines restent, demeurent. Le rappel est fort intéressant. Ces personnes n'avaient aucun problème pour faire de leur corps ce qu'ils souhaitaient. Certains de ces hommes avaient infiltré l'Église, mais pratiquaient des relations sexuelles contre nature. C'est peut-être la même chose aujourd'hui. Des soi-disant chrétiens donnent libre cours à leur vie de concubinage sans le moindre scrupule. La débauche, c'est tout simplement des relations hors mariage. Jude, enfin profiler, ne s'arrête pas sur ses souvenirs du passé, mais les applique avec précision à ces personnes qui ont infiltré l'Église. Et continue au verset 8 et 10. Eh bien, malgré cela, nous dit Jude, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas, quant à ceux qu'ils connaissent par instinct, comme des bêtes privées de raison. Cela ne sert qu'à leur perte. Des visions pour justifier leur débauche. Ce verset 8 montre enfin et vise directement ces personnes dans l'Église. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Montre que tous les exemples du passé expriment avec force l'attitude de ces personnes dans l'Église. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps. Il est fort remarquable que Jude indique que leur attitude s'appuie sur une soi-disant révélation, soi-disant vision. Et clairement, ces visions servent de point d'appui pour fonder leurs prétentions et justifier leur comportement. L'accusation, ils fouillent leur chair, n'importe pas une multiplicité d'interprétations. C'est l'immoralité sexuelle qui est visée à la lumière, d'ailleurs, de ces deux exemples précédents. On peut donc envisager la possibilité d'une apologie du dérèglement sur des révélations mensongères. Mais leur mépris et leur rejet ne s'arrêtent pas là. Ils rejettent la souveraineté du Seigneur et insultent les êtres glorieux. Une nouvelle fois, cette souveraineté peut être résumée par la seigneurie de Christ. Dans le profil de Jude, Ces personnes non seulement ont des pratiques douteuses, mais également un enseignement douteux. Ces personnes ne se limitent pas à une vie déréglée, dirigée par eux-mêmes, mais professent une indépendance vis-à-vis de Christ. Mais ce n'est pas tout, ces mêmes personnes insultent les êtres glorieux. Même si ce terme ne semble vouloir rien dire, les gloires, dans l'original, tout pousse à penser qu'il s'agit des anges. Le terme insulte ne revêt pas forcément la puissance du blasphème. Le terme employé, blasphème, il est en direction des anges. Il s'agit une nouvelle fois, non seulement d'une attitude, mais d'un propos et de discours insultants. Le recours à des révélations sous forme de songes, de visions, donne donc de sentiments de supériorité d'être en contact direct avec la divinité pour entretenir un sentiment de supériorité aux anges, nourrissant des insultes à leur encontre, alors que Jude indique une place légitime dans le plan de Dieu, aux anges. Cette situation est fort remarquable pour ces personnes. Aujourd'hui, ces personnes pourraient se qualifier de chrétiennes et se justifier et justifier leur attitude par des révélations. Les révélations ne peuvent jamais justifier une quelconque indépendance par rapport à Jésus-Christ et à une quelconque supériorité. Mais leur plus remarquable encore est l'opposition entre l'attitude de ces personnes vis-à-vis des autorités célestes et l'attitude de l'archange Michel. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire le point sur la littérature apocryphe, c'est-à-dire d'ouvrages non intégrés dans la Bible et donc dans le canon des Écritures, mais qui sont utilisés par Jude. Cette utilisation est faite car ces écrits étaient bien connus des destinataires, et ceux-ci pouvaient facilement se les approprier. Nous verrons que la seule mention explicite dans le livre de Jude à un écrit apocryphe est la mention du livre d'Enoch. Celle-ci n'en canonise pas le livre d'Enoch, car la mention est la seule dans le Nouveau Testament et n'est pas précédée de « comme il est écrit », qui fait référence à l'autorité scripturaire que pouvaient revêtir les écrits de l'Ancien Testament. Des petites parenthèses. Mais revenons au profil de ces personnes que Jude est encore en train de faire le profil. Cette situation rapportée par Jude est des plus déroutantes. Connaissez-vous cette scène et savez-vous d'où elle est tirée, cette histoire de l'archange Michel? L'archange Michel apparaît dans le livre de Daniel, en Daniel 10, et dans les apocryphes comme le protecteur d'Israël. Il est appelé là archange, ce qui le désigne comme un chef des anges. La scène, même si elle apparaît logique dans l'opposition entre le diable et l'archange Michel, le sujet n'en demeure pas moins surprenant, à savoir le corps de Moïse. Il faut se rappeler que tout ce qui concerne Moïse, ce législateur d'Israël, a été recueilli précieusement par la piété juive. Les paroles fort énigmatiques de Deutéronome 34, verset 6, ne pouvaient marquer de retenir l'attention et de donner lieu à d'intenses spéculations. L'Éternel, Deutéronome 34, 6, l'Éternel l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Les apocryphes tendent à attribuer à Michel, comme agent de Dieu, l'ensevelissement de Moïse. Mais dans l'exécution de cette mission, Michel se heurte à Satan, qui se livre à une ultime tentative pour l'emporter sur Moïse, en le privant d'une sépulture accordée par Dieu. Et peut-être avec le désir de s'approprier le corps de Moïse pour en faire un objet de culte, pour faire chuter une nouvelle fois le peuple d'Israël. Selon certains pères de l'Église, notamment Clément d'Alexandrie et Origène, Jude citerait ici un apocryphe juif appelé l'Assomption de Moïse. Mais la mention de cette citation est des plus complexes, car le texte n'a jamais été retrouvé. Mais quelle leçon veut-il nous communiquer par cette référence qui transporte le lecteur dans des mystérieuses puissances invisibles qui se trouvent au point de départ, un texte étrange du Deutéronome. On s'accorde à trouver dans l'exemple de retenue, de modération, de maîtrise dans le discours dont fait preuve Michel face à son grand adversaire. Il n'insulte pas, il ne cherche pas à régler lui-même la question, il fait appel au seul Seigneur, apte à la fois à trancher tous les conflits et à punir les accusateurs hypocrites. Il contraste, évidemment, il y a un contraste évidemment saisissant avec l'orgueil insensé de ces personnes qui s'estiment libérées au point d'injurier les êtres glorieux que sont les anges. Ce que Michel n'a pas osé, ils ont l'audace de le faire. Le mépris du monde spirituel est un prolongement du refus de la Seigneurie de Christ. L'opposition avec ces personnes est forte. Et Jude utilise l'exemple de l'archange Michel comme exemple opposé. D'ailleurs, dans le verset 10 est sans pitié et ouvre une nouvelle caractéristique que nous propagerons pour identifier ces personnes. Ces gens-là, verset 10, insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Ces personnes combattues manifestent à la fois une ignorance, produisent un discours insensé et une sorte de savoir, mais un savoir d'expérience situé à un niveau, celui des bêtes, qui conduit à la perdition. Ces prétendus spirituels ignorent en fait les réalités spirituelles, non seulement de par leur condition de mortel, mais aussi, au verset 19 nous le voyons, par l'absence de l'Esprit de Dieu en eux, qui ouvre à ces réalités. Ces prétendus spirituels n'ont pas l'Esprit de Dieu. Cette méconnaissance du spirituel les oblige à se focaliser sur la nature, comme des animaux. Cette connaissance ne vient ni des Écritures, ni de l'Esprit de Dieu, elle provient de ce qui est naturel. Elle est donc l'abandon du terrestre au terrestre, aux convoitises, comme des bêtes sans raison. En opposition, l'homme dirigé par la raison et l'esprit, s'élève vers Dieu et s'interroge sur sa condition. Le profilage de Jude ne cesse de s'affiner. Et à partir de ce verset, nous commençons à y voir très clair, en relation d'ailleurs avec le verset 19. Ces personnes sont tout simplement des soi-disant chrétiens. Mais ils n'en sont pas. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont présentés dans l'assemblée, mais leur attitude démontre une vie totalement opposée à Dieu, dirigée par leur caractère primitif de bête, nous dit Jude. À nous de voir si ce profil, et c'est une question choc, nous concerne. Non que nous devrions regarder le voisin qui est assis à côté de nous, car cela, ce ne serait pas juste, mais de regarder au fond de notre cœur, si cette description nous concerne. Attention, car il est difficile et il est facile de se donner bonne conscience et de nous rappeler ce que nous pourrions avoir fait. Là n'est pas la question est qui sommes-nous réellement? Car Jude est clair quant à leur fin. Ils vont périr. En effet, la perdition comme jugement divin sur quiconque n'a pas d'aspiration plus haute que celle des bêtes et ne se soucie pas de Dieu. Je n'appellerai plus désormais ces gens-là des personnes, mais des faux chrétiens. Verset 11, malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Ce malheur à eux en rappelle d'autres. C'est un procédé littéraire largement utilisé par les prophètes et également utilisé par Jésus pour dénoncer l'hypocrisie. C'est l'annonce de la ruine de ces faux chrétiens. Mais une nouvelle fois, Jude, en tant que bon profiler, utilise d'autres exemples du passé pour nous montrer l'égarement de ces faux chrétiens. Et pour cela, il fait appel à trois exemples. Caïn, Balaam et Corée. Nous aurions pu survoler chaque texte, mais Jude nous invite à méditer ces attitudes, car elles sont reprises par ces faux chrétiens. Ils ont marché sur les traces de Caïn. La domination du péché sur leur vie. Vous vous rappelez tous de cette scène. Caïn fait une offrande des fruits du sol quand Abel apporte les premiers-nés de son bétail en offrande à l'Éternel. L'Éternel porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel seulement. Caïn en fut très irrité. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Nous connaissons la suite. Caïn tua son frère. Pour vaincre le péché, la solution était là. Caïn devait renoncer à sa jalousie, à sa colère. Le péché n'aurait pas eu d'emprise sur lui et n'aurait pas pu le détruire. La conclusion est tragique. C'est une malédiction sur Caïn et sa vie. Le péché non confessé et non abandonné ne peut rester impuni. Pour Jude, le chemin de Caïn évoquerait le désordre moral, le manque de respect pour l'autre, la non-résistance au mal et une relation faussée avec Dieu, avec son tragique débouché. Ces faux chrétiens sont dominés par le péché, une vie immorale, et ils n'ont aucun respect pour les autres. Mais ce n'est pas tout. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Vraiment étrange ce personnage que ce Balaam. Je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais c'est un prophète païen, en principe au service du roi de Moab, Balak, pour maudire Israël, mais arrêté par Dieu et contraint à devenir l'annonciateur d'un avenir lumineux pour le peuple de l'Alliance. Nombre 22. Mais par une brève mention en Nombre 31, il apparaît aussi comme le corrupteur des Israélites en incitant les femmes madianites à séduire les hommes du peuple d'Israël. À s'en tenir aux données bibliques, l'égarement de Balaam ferait d'avoir cru un instant pouvoir prononcer une malédiction sur Israël et surtout à la lumière de Nombre 31 d'être devenu le séducteur du peuple amenant à la faute par le piège de la sensualité. En mentionnant à propos des faux chrétiens de son temps le salaire puis l'égarement de Balaam, Jude souligne les aspects négatifs du personnage, son attachement au bien matériel et son action dirigée contre le peuple de l'Alliance. De la même manière, les faux chrétiens que Jude combat aiment l'argent, égarent les fidèles et pratiquent l'immoralité et en font certainement un moyen de gagner des adeptes. L'amour de l'argent est une autre caractéristique de ces faux chrétiens. L'argent est beaucoup plus important que Dieu pour eux. Dieu n'est qu'un subterfuge pour satisfaire leur conscience et leur présence à l'Église est là pour satisfaire aussi leur conscience et leur donner une espérance. L'amour de l'argent caractérise une attitude qui fait chuter. Or, l'un des moyens utilisés par Dieu pour nous en affranchir est le don. La parole adressée au jeune homme riche est là à nos oreilles. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ces faux chrétiens étaient avides d'argent. Jude nous supplie de ne pas tomber dans cette même avidité. Le don est la voie de la libération. Et le jeune homme riche n'entrera pas parce que ses richesses étaient trop importantes pour lui. Et l'un des derniers souvenirs que Jude nous rappelle est une révolte. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Cette référence est sans conteste celle de Nombre 16. C'est le rebelle qui, avec ses compagnons, désire occuper la place de Moïse et Aaron. Si l'on écoute les réactions de ses deux associés, Dathan et Abiram, c'est tout le plan de Dieu arrachant le peuple aux facilités de l'Égypte et l'exposant à mille dangers dans le désert qui est contesté. L'intérêt de Jude ici se porte prioritairement sur l'échec de la révolte et sur la sanction par une intervention divine spectaculaire. La terre se fendit et engloutit avec leur famille, de même que les partisans de Corée et tous leurs biens. Nombre 16, verset 32. Cette dernière allusion rappelle la première. La rébellion est une marque omniprésente dans leur attitude. Encore une fois, nous devons être gardés d'une critique qui couvre une révolte. Cette attitude est la marque souvent des faux chrétiens. Après ses souvenirs du passé, Jude passe à leur attitude concrète dans l'Église. Verset 12. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Il est fort intéressant, si je n'ai pas répété ça 5 fois, que ces faux chrétiens participent à la vie de l'Église, mais même s'ils sont venus de l'extérieur. Ces personnes sont dans l'Église. Ils participent au repas communautaire. Leur manque de pudeur, de respect, se mesure par leur absence d'égard pour leurs frères et de considération pour la présence du Seigneur dans les assemblées. Mais ce n'est pas tout. Ils démontrent par leur attitude qu'ils se paissent eux-mêmes. L'expression « ne s'intéresse pas à eux-mêmes » peut être traduite par « ne se paissent pas à eux-mêmes ». Cette expression inspirée, sans doute d'Ézéchiel 34, stigmatise leur oubli des autres et leur recherche une jouissance égoïste. Ces faux chrétiens se prétendaient à tenir le rang d'enseignants, de bergers du troupeau. En fait, ils ne se souciaient que d'eux-mêmes. Leur désir de faire des adeptes est seulement une forme de la tyrannie de leur ego, la recherche d'une satisfaction personnelle. On pourrait encore voir là une allusion à leur désir de s'enrichir aux dépens des fidèles. Par cet exemple désastreux, en excitant la convoitise des plus faibles ou en les scandalisant, ils deviennent de redoutables écueils sur lesquels des vies chrétiennes risquent de faire naufrage. Verset 12, ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. La déception est attachée à leur vie. Les deux images vont dans le même sens. Ces gens-là sont décevants. Ils ne peuvent procurer les satisfactions qu'ils promettent. La première image évoque bien le climat des côtes syro-palestiniennes, où souvent des nuages prometteurs passent sans donner la moindre pluie. La deuxième image mentionne des arbres, eux-mêmes pleins de promesses de récolte, qui n'ont pas de fruits. À la fin de l'automne, peut-être ont-ils encore des feuilles, mais il n'y a plus à rien à espérer. L'expression « deux fois mort » semble surprenante. Pourtant, l'absence de fruits est comme une première mort, et l'inéluctable déracinement par les soins du propriétaire comme la seconde mort. Quel avertissement pour ces faux chrétiens. Déception, stérilité dans le présent, perdition pour l'avenir. Les faux chrétiens sont sans présent, sans avenir. Ils ressemblent, verset 13, aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte à des astres errants auquel est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. La honte sur ce qu'ils sont et font. On admire le style de l'expression, mais derrière l'écume que l'œil exercé de Jude perçoit, à la surface du comportement des faux docteurs ou comme un dépôt qu'ils lèvent derrière eux, c'est la honte. Cette honte est l'évaluation de Jude sur leur attitude condamnable. L'emploi du pluriel, littéralement les hontes, montre que sont visés des actes, des comportements, des paroles toutes entachées d'impureté. Quant aux astres, cette idée peut être une image de l'absence de fixité et d'éclat garanti. Les ténèbres semblent être leur cours d'école. Cette image tranche ô combien avec l'espérance des justes en Daniel 12. Ceux qui auront été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et pour conclure, sa description. Pour conclure, Jude utilise une citation d'un livre apocryphe, celui d'Enoch, bien connu de ses auditeurs. Versets 14 et 15. À eux s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche, depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Comme je vous disais tout à l'heure, cette citation n'en fait pas un livre de la Bible, car aucun indice nous pousse à penser que Jude considérait le livre dans son entier comme canonique. L'idée centrale de cette section confirme ce qui a déjà été énoncé. Comme l'a prédit Enoch, l'intervention du Seigneur pour juger le monde verra la confusion des faux chrétiens, de tous ceux qui font le mal et qui ont blasphémé les êtres célestes. Le verset 16 insiste sur le fait que ces gens qui perturbent les églises auxquelles l'épître est envoyée font partie du lot. Par leur acte, par leur discours, leur égoïsme, ils se rangent clairement parmi ceux que le jugement annoncé atteindra. Dans ce jugement, on relève une nouvelle fois les œuvres mauvaises et les paroles dures et insolentes proférées contre le Seigneur. Ces hommes-là, verset 16, sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort, et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Ils prolongent la citation d'Enoch sur ces faux chrétiens. Ils se font remarquer par leur esprit de contestation et leur souci de leur propre intérêt. Leurs murmures et leurs plaintes s'en prennent certainement à des hommes, peut-être des conducteurs de l'Église, sans doute à ceux qui refusent de les suivre. L'envers de la préoccupation de soi-même et le mépris des autres. Ils apprécient les personnes par rapport à leur intérêt. On peut en déduire que les faux chrétiens savent favoriser et flatter les puissants et les riches pour en tirer profit. Là encore, ils soulignent, ils s'éloignent de l'attitude recommandée par la Bible, c'est de Dieu lui-même, la non-acceptation de personnes et le refus du favoritisme pour un quelconque gain. Il suffit de déclarer qu'ils marchent selon leur convoitise. Versets 4, 8 et 10. Ils n'offrent aucune résistance à leur passion, et cela manifestement, pas seulement par faiblesse, mais aussi par conviction. Conclusion. Le tableau est vraiment sombre et noir. Jude, en qualité de profiler, ne mâche pas ses mots à l'encontre de ces faux chrétiens. Et sa conclusion au verset 18 et 19 éclaire le tableau. À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions. Ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Leurs actes et leurs paroles sont pleins d'un venin mortel et le jugement ne pourra que se déverser sur eux. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils sont démasqués par Jude. Mais que faire avec cela aujourd'hui? Nos églises sont assurément remplies de personnes qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas en réalité. Il se pourrait même bien que des personnes soient des imposteurs manifestes. Leur impact sur les autres est à limiter à tout prix. Même si ce message, et je le répète, n'est pas là pour regarder bizarrement votre voisin d'à côté, il est là pour nous faire réfléchir sur ce que nous sommes réellement. Et le Saint-Esprit, si nous le possédons, atteste que nous sommes ses enfants. Donc nous n'avons pas à être inquiets si nous sommes à lui. Le Saint-Esprit atteste. Au-delà des apparences, la clé de savoir si nous sommes chrétiens ou pas reste à savoir où nous nous plaçons. En qualité de combattant pour la foi transmise une fois pour toutes ou dans la catégorie de ces faux chrétiens. L'une et l'autre des conditions amènent chacune à une issue différente. L'une, la présence avec Dieu. L'autre, le jugement éternel et la séparation d'avec lui pour toujours. Soyons assurés de notre chemin, car le temps est grave et le jugement est certain pour ces faux chrétiens. À nous de méditer sur nos actes, nos paroles, nos pensées. Je n'ai pas là pour juger les faux chrétiens, mais son désir, et nous le verrons la fois prochaine au verset 23, est de les arracher au feu. Je désire arracher au feu ces personnes qui sont peut-être mal parties, qui sont crues chrétiens. Jude et le Seigneur désirent vraiment les arracher au feu.